L'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Jésus, la vraie vigne. Au nom de Jésus. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il coupe chaque rameau qui en moi ne porte pas de fruit, et il taille, il purifie chaque rameau qui porte du fruit, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut porter de fruits tout seul, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Voici comment apparaît la gloire de mon Père quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Amen. Avez-vous déjà vu le film Le Cercle des Poètes Disparus? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Le Cercle des Poètes Disparus. Ce film, un vieux film qui est sorti en 1989 aux États-Unis avec le célèbre acteur Robin Williams. Ce dernier était nommé professeur de littérature dans une université. Lors de son premier cours, il a demandé à ses étudiants d'ouvrir leurs livres prévus pour le premier jour dans le cours de cette première journée. Ensuite, il a demandé à ses étudiants de lire la préface. Après avoir terminé la lecture, il a posé une question à toute la classe. « Qu'en pensez-vous ? » Et là, il y avait un qui a osé lever la main et qui répondait « Je ne vois pas l'utilité de ce qui a été dit. » Et tout le monde attendait que le prof va être fâché. Mais lui, il a rigolé, il a dit « Ah oui, c'est vrai. Alors, je vous demande de déchirer cette première page, car elle est inutile. » Et tout le monde s'est amusé à déchirer la première page. J'ai pris cette histoire pour attirer votre attention. Si à mon tour, je vous propose et je vous pose une question qui pourrait nous déstabiliser, si on devrait se débarrasser de tous les livres dans la Bible, quelle partie de la Bible qu'il faudrait impérativement garder dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Je vais dans le sens inverse de ce qui a été dit dans le film. C'est Jean 3,16 que nous connaissons tous. C'est le résumé de la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. » Pourquoi ? Parce que c'est le cœur du message de la Bible. Et là, pour répondre encore un peu plus à cette question, regardons notre texte. Jésus dit « Je suis la vraie vigne, je suis la vigne et nous ne sommes que les sarments. » C'est-à-dire que la source de la vie vient uniquement de Jésus. Et j'insiste sur le mot « uniquement ». D'ailleurs, c'est pour cette raison que je l'ai dit tout à l'heure pendant la liturgie, qu'on appelle Jésus le Fils unique de Dieu. Même si nous sommes aussi enfants de Dieu, il est la seule personne, le seul individu qui satisfait le Père. Et c'est le sens ici du mot « Dieu m'a aimé ». C'est le Père qui avait déclaré à deux reprises dans le Nouveau Testament ce choix qu'il a fait. La première fois, Après le baptême de Jésus au Jourdain et la deuxième fois lors de la transfiguration, voici mon fils bien-aimé. Dire qu'il est la source de la vie, cela touche aussi notre vie ici-bas, non seulement dans la vie de l'au-delà, comme beaucoup nous en accusent, que vous les chrétiens, vous ne vivez que pour l'au-delà. Ça, c'est faux. La vie ici-bas, ce n'est pas une salle d'attente. La vie commence ici-bas. Nous ne nous focalisons pas uniquement sur la vie éternelle dans l'au-delà, mais la vie, elle commence maintenant. Et n'oublions pas, nous sommes dans l'évangile de Jean, avec son célèbre prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu, et la suite, tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui, et en lui était la vie. En d'autres termes, sans lui, sans le Verbe, sans le Christ, sans le Fils unique de Dieu, il n'y aurait pas de vie possible sur terre. Je dis bien sur terre. Et c'est pourquoi si Jésus nous dit « Demeurez en moi », c'est quelque chose de fatal, ce qu'il dit ici et ce qu'il nous propose. Ça veut dire qu'en dehors de moi, il n'y a pas de vie. C'est la mort. Le verset 1 aussi va dans ce sens et nous interpelle à penser personnellement l'histoire de Noé après le déluge. Ce n'est pas juste une parabole, ce que Jésus dit ici, en disant qu'il est la vraie vigne et que le Père est le vigneron, mais il sous-entend l'histoire après le déluge où Dieu se révélait. Bizarre, après la sortie de l'arche, Dieu se présente comme un vigneron. Pour symboliser qu'il redonne la joie de vivre à Noé et à toute sa famille après tous ces longs moments d'attente, marquant le commencement d'une nouvelle vie après le déluge. Et l'histoire de Noé n'est autre que le replay de la création, un nouveau départ, une nouvelle vie. Et dans la Bible, on sait très bien que le déluge a un sens particulier. Le déluge, il est l'image du baptême dans l'épître de Paul et de Pierre, l'image du baptême parallèlement à l'histoire de la traversée de la mer au temps de Moïse, l'image de la mort avec les flots qui ont submergé le monde, et la nouvelle vie à travers la sortie de la famille de Noé, en vie, symbolisant un nouveau départ. L'image du baptême est reprise aussi dans Romains chapitre 6, versets 4 à 5, qui est dit, au nom de Jésus, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle, car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Le terme assimilé en grec a un sens greffé. Nous avons été greffés à Christ lors du jour de notre baptême. Et c'est pour cette raison qu'il est annoncé au début du texte qu'il y a des sarments qui portent des fruits et ceux qui ne portent pas. Il y a plusieurs branches. Donc il ne suffit pas que nous soyons greffés. En d'autres termes, il ne suffit pas que nous sommes baptisés, assimilés à lui, mais il faut nous purifier parce que nous sommes des branches de l'extérieur qu'on a greffées à Christ lors du jour du baptême. Et là, il dit, il faut le tailler, il faut le purifier pour qu'il puisse porter du fruit. Je pense que ce texte nous aide à répondre à certaines questions des personnes qui disent, mais comment ça se fait qu'une personne déjà baptisée pêche encore.
Mais oui, c'est logique même, puisque nous venons de l'extérieur. D'où chez certains courants d'église, par exemple, on n'accepte pas l'idée d'une repentance à répétition. Ils disent, pour eux, la repentance ne se fait qu'une seule fois dans la vie chrétienne. Alors là, je crains pour ces personnes-là qui ne vont jamais porter de fruits. Il faut purifier la branche. Il faut la tailler si on veut avoir du fruit. Malgré que nous sommes unis en Jésus-Christ, il y a des moments que nous n'arrivions pas à donner des bons fruits qu'on attend de nous. Alors l'image donnée par Jésus dans ce texte illustre bien que chaque jour, nous avons besoin du vigneron pour tailler la vigne avec sa parole. Ce texte me fait rappeler aussi la parabole du figuier. Le figuier planté dans une vigne. Qu'est-ce qu'il fout là, ce figuier? C'est pas sa place. Mais il y a un figuier au milieu de cette vigne. Je ne sais pas si ça vous a marqué quand vous avez lu ce texte. Parfois, tout de suite, on se dit, oui, le figuier, mais il ne devrait pas être là. Normalement, il n'a pas sa place là, mais le propriétaire de la vigne avait décidé de le garder. Il dit, je veux le garder au moins pendant 3 années pour espérer des fruits avec. Pourquoi? Parce que si le figuier se trouve au milieu des vignes, il aura aussi le même traitement. Et arrivant à la 3e année, le propriétaire a finalement décidé de le couper. Pourtant, il avait reçu tous les traitements favorables pour la vigne, une bonne prise en charge. Alors la question qui m'est venue à l'idée, quel est l'intérêt de porter des fruits? Quelqu'un qui est dans l'épanouissement spirituel. Je parle ici de porter des fruits, non pas pour mériter le ciel, mais dans notre épanouissement. Et moi, j'attire votre attention aujourd'hui de ne pas penser au paradis, mais de notre vie ici-bas. Il faut que notre vie ait un sens. Il faut que nous épanouissions déjà, maintenant, sur cette terre, n'attendant pas la vie éternelle. Nous devrions dépasser le stade où nous nous disons « je vais au culte, je vais aux réunions de prière, je vais à l'étude biblique ou dans des groupes de maison ou de n'importe quelle association chrétienne pour me faire du bien. » Si c'est là votre motivation, vous ne portez pas de fruit. C'est de l'égoïsme. Je vais y aller pour me faire du bien. Si ce n'est que cela, oui, c'est déjà bien. C'est déjà un bon départ. Mais si ça ne reste qu'à ce niveau-là, alors nous ne faisons que penser à nous, à se faire du bien. Tout le monde fait ça, n'est-ce pas? Mais as-tu pensé aux autres? En parlant de figuier, vous vous rappelez l'histoire du figuier sans figue? Jésus s'en approcha pour trouver quelque chose à manger. Le Seigneur avait faim, mais il n'a rien trouvé. Donc ces fruits, ils ne sont pas destinés pour l'arbre, mais pour celui qui cherche à manger. Ces fruits ne sont pas destinés pour le Seigneur. Souvent, on se dit, je dois faire ceci pour le Seigneur. Non, il n'en a même pas besoin. Mais pour les autres. Si le Christ nous demande de donner des fruits, ce n'est pas dans le but de faire plaisir à Dieu. Non, pas du tout. Nous sommes appelés à porter du fruit pour l'épanouissement de nos amis qui nous entourent. Mais ce qui est clair, qu'à nous seuls, nous ne pourrons pas donner du fruit, ça c'est sûr, par nos propres efforts. Mais si vous avez bien suivi notre lecture pour cette méditation, il y a un verbe qui revient souvent, demeurer en Christ. C'est ça la clé, la solution que ce texte nous donne. L'homme est incapable de réaliser cette œuvre. de transformation pour apporter des fruits. Et donc, il nous faut une force de l'extérieur. Jésus, la vraie vigne, verset 4. Demeurer, ce n'est pas juste un passage éclair. Demeurer, derrière ce verbe demeurer, il y a une notion du temps. Rester pendant une longue durée, pendant de longs moments, avec le Seigneur. Comme David, savez-vous, David, à chaque fois quand il fait, après ses expéditions militaires, quel était le moment que David appréciait le plus? Quand il revenait des combats, il n'allait pas tout de suite chez lui pour prendre le bain, pour manger, pour être avec ses enfants. Il revenait tout de suite sous la tente où il y avait l'arche. Et il passait des heures là, contempler l'arche. Ça, c'est le secret de David. Le grand roi, le chef militaire, il revenait aux pieds de son maître pour le contempler. Et ce n'est pas étonnant qu'il a pu écrire tous ces psaumes. Il était inspiré. Il était vraiment imprégné de cette présence de Dieu parce qu'il demeurait devant son Dieu. Passer du temps avec son Dieu, c'est si bon, mes chers amis. Passer du temps avec votre Dieu, pas un passage éclair. Oh Seigneur, bénis-nous Seigneur pour cette matinée, pour le travail. Amen. Vite le train, tac. Oui. Passer du temps. J'ai appris ça récemment. Avec la spiritualité de certains moines monastiques. En ce moment, je me suis plutôt dans cette démarche-là. Même si je suis protestant, il y a des choses quand même qu'il faut reconnaître. Chez notre ancienne famille, l'Église catholique, prendre du temps pour contempler son Seigneur et écouter. Et j'ai fait cette expérience d'ici quelques mois passés, aller tout au long de la Meuse, m'asseoir tout seul, sans personne, et passer des heures à prier. Et ça fait du bien. Je redécouvre ça. Je dis, ça fait du bien. Ça ne me suffit plus le moment où je me prie tout seul à la maison. J'ai besoin de passer du temps avec toi, Seigneur. C'est si bon, et je le partage avec vous. Alors, chers amis, il n'y a pas de solution miracle. Que tout à coup tu as la foi, tout à coup tu as le zèle pour ton Seigneur. Il faut demeurer avec lui, rester, prendre le temps pour qu'il puisse te remplir. Et c'est ce que Paul a dit dans son exhortation, que ta parole habite parmi nous dans toute sa richesse, ô Éternel. Et instruisez-vous, avertissez-vous les uns et les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre connaissance par des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. C'est ça, passer du temps avec son Seigneur, Christ seul.